Alors, comme promis, nous retrouvons Sylvain Sartre, donc directeur musical du Festival de musique ancienne de Maguelone. Et après avoir évoqué les orientations de ce festival, nous allons un petit peu évoquer les moments de ce festival. Alors, Sylvain Sartre, ça va commencer très bientôt, hein, le premier concert est le 4 juin. C'est cela. Oui. Alors, avec un ensemble vocal qui s'est formé, dans l'école vous-même a été formé.
Oui. Les chats ne font pas des chiens. Non, mais alors, c'est une école qui existe depuis un siècle maintenant de travail, de recherche sur l'interprétation de la musique ancienne, la Schola Cantorum de Bâle. Évidemment, comme dans tout lieu d'apprentissage, beaucoup d'initiatives artistiques se créent. D'ailleurs, moi, j'ai fondé mon ensemble en sortant de l'école avec Margot Blanchard. J'avais envie que cette école soit représentée. Alors, évidemment, ils ne sont plus étudiants depuis un certain temps. Et donc, cet ensemble qui s'appelle Voces Suaves, qui est un ensemble de chanteurs, de jeunes chanteurs. Donc, c'est vraiment de la musique vocale, là, pour démarrer le festival. De la musique élisabéthaine, 16e, 17e siècle, qu'on entend assez peu. De la chanson, en fait, de la chanson à texte anglaise. Vous n'écouterez pas les Beatles, mais presque, avec ces chanteurs qui font un travail de son, d'homogénéité sonore assez intéressante, qui vient aussi en regard de l'acoustique particulière de la cathédrale, puisque le lieu nous offre une acoustique qui est d'une certaine façon un troisième personnage, en fait, dans le concert. Il y a le public, les musiciens et l'acoustique, et le lieu.
Et qui, pour les interprètes, n'est pas si simple à gérer, parce qu'il y a
une
réverbération importante, et si c'est pas bien géré, pour le public qui est un peu loin, c'est il y a plus grand chose.
Non, c'est vrai. C'est l'arrivée dans un lieu quand on est des musiciens, c'est toujours compliqué parce qu'il y a la phase de répétition où le lieu est vide et où il y a énormément de réverbération. Quand le public arrive, le public absorbe une partie de la réverbération, donc l'acoustique change, donc les musiciens sont toujours déstabilisés au début du concert. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on répète avant un concert, les musiciens me disent « Oh là là, ça tourne ». Je dis « Mais vous verrez, ça va changer. Ah non, mais là, c'est trop grand, ça ne changera pas. » Et ça fait 25 ans que je fais ce métier. Ça change à chaque fois. Donc évidemment, il faut s'approprier le lieu. On n'arrive pas, on joue et puis tout va bien. Non, on s'approprie, on doit. C'est pour ça qu'il faut un temps. Il faut que les musiciens soient là en amont, avoir un temps comme quand on rencontre une personne, hein, le temps de savoir comment elle fonctionne, c'est son caractère. Et puis ensuite, on s'adapte au lieu. Et il faut aussi que le programmateur ait ça en conscience pour concevoir la programmation qu'il fait. Donc ça, c'est important pour moi d'avoir cette caractéristique de me dire il faut que le programme qui va arriver dans la nef soit cohérent avec l'acoustique.
Oui, on n'a pas tout à fait les mêmes problèmes quand c'est à la tribune qui est
exactement
en haut, qui a beaucoup moins de réverbération.
Il y a moins de réverbération, c'est plus intime, on est sur un autre type de concert.
Donc là, Voces Suaves, donc un programme qui s'intitule From England to Love, avec John Derlin, Thomas Wilkes, William Byrd, Willby également. Voilà, donc j'allais dire, c'est le répertoire que Alfred Deller faisait découvrir aux mélomanes, un répertoire qui a été complètement oublié au lendemain de la guerre.
Oui, exactement. Et puis on a des justement, Dowland, qui a beaucoup écrit pour le luth, a aussi proposer à ce que son répertoire puisse être chanté par un chœur mixte. Et donc, ça sera intéressant parce qu'on va entendre pour ceux qui connaissent un petit peu ce répertoire, on va entendre des chansons de Dowland qu'on a l'habitude d'entendre pour voix solo et qu'on va entendre en polyphonie. Et ça, je pense que c'est un moment intéressant et particulier à découvrir en ce début de festival.
Voilà. Alors, deux jours plus tard, ce sera le 6 juin, donc c'est à 21h, hein, les concerts. Alors là, ce sera la tribune, hein, parce que c'est un claveciniste qui va être tout seul. Benjamin Allard, Jean-Sébastien Bach. Alors, le concert dit Jean-Sébastien Bach, l'italien. Ce qui peut surprendre.
Ce qui peut surprendre, mais pas tellement quand on sait que le grand Bach, c'est puissamment intéressé au style italien. On connaît les concertos pour plusieurs claviers issues de transcriptions qu'il a faites de Vivaldi. Donc c'est un programme, voilà, j'avais envie qu'on touche quand même un petit peu la Méditerranée et qu'on touche un peu le répertoire italien. Donc Benjamin est en train de faire une intégrale de toutes les œuvres pour clavier de Bach, pour Harmonia Mundi, et l'idée c'était de lui confier un très beau clavecin qui va venir d'un peu loin, de Jean Bascou, et qui va nous permettre d'entendre Bach avec un peu de latin, un côté latin voilà, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, et donc ça sera en tribune, et pour avoir justement une proximité avec l'instrument et le musicien.
D'accord. Donc voilà, Benjamin Allard, donc ce sera le 6 juin. Hein. Et bien sûr, on peut déjà réserver ses places, acheter les places sur Internet. Et puis le 8 juin, donc il y a un concert comme ça tous les deux jours hein, pour l'instant. Un ensemble, je crois que vous connaissez assez bien.
Les Ombres, oui, exactement. Mais je ne serai pas sur scène. Non, ça sera un concert qui a été créé il y a quelques mois avec un jeune contre-ténor anglais, un disciple peut-être de Deller dont on parlait, Alexander Chance, un programme plutôt italien. Voilà, toutes les mélodies pour contre-ténor, la musique flamboyante du style italien avec cette voix d'ange en fait d'Alexander Chance qui sera là accompagné effectivement par Les Ombres et Margot Blanchard qui sera à la direction.
Voilà, donc avec au répertoire vous disiez que les Italiens, donc Monteverdi, Caldara, Rossi, mais aussi Handel et Purcell. Alors voilà. Handel, il est allemand, il est anglais, il est un peu des deux.
Et puis il a commencé ses études à Rome, donc
il est européen voilà, voilà tout simplement. Et Purcell, lui, qui est franchement anglais, mais
exact.
Bon. Et puis, on va évoquer ce qui se passe le 11 juin, peut-être.
Oui,
là, c'est pas un concert.
Non.
Et ce sera pas la cathédrale.
Et non, on sera la médiathèque Émile Zola de Montpellier qui nous accueille pour une conférence. Alors, c'est très intéressant. Moi, j'avais envie qu'il y ait une dimension aussi un petit peu de découverte, parce que vous savez, on est un peu des Indiana Jones de la musique ancienne. C'est-à-dire qu'on va dans une forêt, alors pour nous c'est les bibliothèques, et on va essayer de découvrir de nouveaux trésors. Et donc en fait, Bénédicte Hertz, elle est chercheuse au CNRS, au Centre de musique baroque de Versailles, et elle fait un travail très très intéressant sur la vie musicale en France, en dehors de Paris et Versailles, à l'époque du XVIIe, XVIIIe siècle. On a beaucoup d'écrits, on sait beaucoup de choses sur ce qui se faisait à la capitale et ce qui se faisait à Versailles. Par contre, on a très peu d'informations sur ce qui se faisait en France. Et elle va nous rendre compte, en gros, d'où elle en est de ses recherches. Et il y a un trésor d'anecdotes, d'écrits, de contenus, de comment on vivait le concert à Montpellier, à Béziers, dans notre région, au 17e, quels musiciens on écoutait, dans quel cadre avaient lieu ces concerts. Et elle va nous apporter voilà, le fruit de ses recherches, et c'est vraiment très intéressant, c'est un événement gratuit. Ce ne sera pas du tout un événement élitiste et pas accessible, on n'a pas besoin d'être musicologue pour venir, et on va apprendre beaucoup de choses, je pense, de cette conférence, donc le 11 juin à 17h à la médiathèque Émile Zola.
Voilà, parce que c'est vrai que ces recherches qui ont lieu, je pense au Centre Brusane, Palazzo Brusane, sur la musique romantique française, mais toutes les époques, dès que les chercheurs se mettent au travail, ils découvrent partitions inconnues, des compositeurs totalement oubliés, des pratiques totalement oubliées.
Oui, il y a un côté aussi social dont on ne sait peu de choses et qui est passionnant en fait.
Mmh. Voilà. Mmh. Et alors, on va retrouver de la musique avec un musicien qui est une famille très musicienne, hein, Gabriel Pidou, parce qu'il a eu un père, un grand-père qui faisait de la musique aussi. Lui, c'est pas du violoncelle, c'est du hautbois. Hein. C'est récent qu'il se soit mis au répertoire baroque, parce que moi, je l'avais entendu dans un répertoire plutôt, entre guillemets, classique.
Alors, Gabriel, oui, il fait du hautbois baroque depuis un certain temps. C'est un musicien très attachant, vraiment très généreux, qui a fondé son ensemble il y a quelques temps. Et donc, on a créé un dispositif depuis cette année, dans le cadre du festival, qui s'appelle Les Muses et l'Émergence. Et l'idée, c'est de confier les clés, en gros, de la cathédrale, une fois par an, un ensemble de jeunes. Donc, en l'occurrence, son ensemble s'appelle Sarbacane. Gabriel, il a été révélation des Victoires de la musique classique en 2020. Et donc, il a plusieurs programmes de musique ancienne. Et là, il n'y aura que des vents sur scène. avec un programme de sonates en trio allemande et d'entendre le basson, d'entendre les hautbois converser ensemble, c'est vraiment très réjouissant. Et donc c'est aussi un concert qui aura lieu en tribune, qui permettra aussi d'avoir une belle proximité
avec les musiciens. Mmh. Ouais. Et puis le timbre de ces instruments n'est pas tout à fait, j'imagine que c'est des instruments d'époque ou des copies qu'ils vont avoir. Mmh. Ce n'est pas tout à fait le même timbre que les instruments contemporains.
Non. Donc,
C'est là que tout l'intérêt. Et puis, on arrive au dernier concert, le 15 juin, le samedi 15 juin, ce sera dans la Grande Nef, toujours à 21h, avec, on l'évoquait tout à l'heure, j'ai envie de dire, un monument international de la musique baroque, avec William Christie, et puis, Tim Langlois-Losvart, qui va être avec lui et qui est... Et aussi un grand nom maintenant.
Un grand nom, mais un jeune nom.
un jeune, mais grand nom.
Et c'est ça qui est touchant, en fait, dans cette fin de festival, c'est d'avoir ces deux musiciens de deux générations assez éloignées. William Christie, effectivement, qui a tant fait pour la redécouverte des pratiques et de la musique baroque, et qui, en tout cas, sans lui, je ne serais certainement pas là aujourd'hui, puisque c'est en allant voir un de ses concerts à la Comédie que j'ai décidé de d'emprunter cette voie de la musique ancienne. Donc William Christie, on regarde Théotime Langlois-Dessoirt, un musicien de 28 ans qui est plein de fougue et la complicité des deux. Alors c'est vrai, c'est assez magique, c'est un moment magique. Et puis en plus, ça signifiait pour moi ce côté intergénérationnel qui était important dans cette première programmation. Et puis le fait de voir William Christie au clavecin, on le voit beaucoup diriger les airs florissants. Il est beaucoup moins souvent, c'est beaucoup plus rare de le voir en concert au clavecin. Et en plus de le voir dans notre région, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Donc voilà, c'était ces raisons qui m'ont convaincu de l'importance de réaliser un concert comme ça pour terminer le festival.
Voilà, donc un beau programme. Alors les amateurs du festival vont peut-être tout d'un coup se dire, tiens, il n'y a pas Jordi Savall. Jordi Savall, ce musicien catalan.
Non, mais Jordi, alors il se trouve que Jordi devait venir et faire l'ouverture du festival, en fait, pour la petite anecdote que j'ai gardée que pour vous, d'ailleurs, je n'en ai pas parlé à d'autres médias. Il devait faire l'ouverture et pour des raisons bêtes d'organisation, de planning, ça n'a pas pu se faire. On voulait commencer le festival avec Jordi, finir avec William. Cette année, on finira avec William et peut-être que l'année prochaine, on commencera avec Jordi.
Voilà. Bon, il n'est pas tout jeune, Jordi Savall, mais ce qui est étonnant, c'est de voir que il est toujours d'une activité débordante. Il enregistre, il dirige
encore
des festivals,
années devant
des concerts.
Lui.
Et puis, il y a plein de jeunes autour de lui, donc c'est formidable. Merci beaucoup, Sylvain Sartre.
Merci
donc, rendez-vous à nos auditeurs au Festival de Maguelone à partir du 4 juin. Vous pouvez déjà aller, chers auditeurs, vous faites taper les Muses en dialogue sur votre moteur de recherche, qui est l'association qui organise le festival. Et puis, vous pourrez... déjà prendre vos places, pour être sûr d'avoir des places. Quand c'est à la Grande Nef, il y a une bonne jauge, mais quand c'est à la tribune, attention, la jauge est beaucoup plus réduite.
Il faut se presser un petit peu.
Voilà. Merci Sylvain
Sartre. Merci beaucoup.